À Canalem, on aime l'été.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 22 août pour cette édition d'Aime l'été. Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure et demie en compagnie de...
Hey, elle a déjà le petit sourire fatigant, là, de toute la vie est belle. Luc Fortin, Maurice Bolduc, merci d'être là.
Plaisir.
On a le clash ici des attitudes et on est vraiment contents parce que c'est la première fois que...
On est des personnages.
On est des personnages et on est à l'opposé. On va voir quelle sorte de mélange de couleurs que ça fait aujourd'hui. Et aujourd'hui à l'émission, pour teinter de nos couleurs, on a un projet lumineux, oui, qui met la lumière sur la bienfaisance. Une nouvelle fondation pour la lutte contre le cancer du sein voit le jour dans la métropole, on en parle. Il y a une boutique à Montréal qui donne une deuxième vie à nos toutous. La chronique vegan de Sophie Lecomte tombe 3 de 3, des journées mondiales et internationales de la semaine et finalement de la musique d'été décortiquée, analysée, mais toujours appréciée. Bienvenue à Aime l'été.
be cold as a stone and rich as a fool that turned all those good hearts away.
On vient d'entendre Birdie, People Help the People.
Tu savais qu'elle était belge?
Je savais même pas qu'elle avait 15 ans quand elle a chanté sur son premier album. Ouais. Ce que tu viens de m'apprendre pendant la chanson.
Effectivement. Frédéric Godet, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on dit Godet ou Godette?
Godet.
Parfait. Toi qui es cofondatrice du projet Luminance, qu'on peut visualiser, découvrir sur luminance.co. Et je me demandais, parce que ça se veut finalement une plateforme d'engagement social, comment dire, un moyeu de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on avait besoin d'une autre plateforme d'engagement social? Parce qu'il y en a quelques-unes.
Il y en a, oui. Par contre, on trouvait qu'il y avait un besoin important de pouvoir retrouver au même endroit du contenu inspirant et positif. C'est-à-dire qu'il ne dénonce pas nécessairement le problème. Il y a un enjeu, il y a un problème, mais qui s'attarde plutôt aux solutions qui existent déjà et à travers lesquelles on peut nous s'impliquer. Donc, ce qu'on voulait, c'est rapprocher le moment d'inspiration qui peut nous arriver en fait, en écoutant des documentaires, par exemple, du moment de prise d'action. Parce que ça nous est tous déjà arrivé, par exemple, d'écouter un documentaire puis de se dire « ça me touche vraiment cet enjeu-là, j'ai envie de changer les choses, qu'est-ce que je peux faire? » Là, on en parle avec notre blonde, notre chum, on s'en va se coucher, on se lève le matin, on prend notre café, notre douche, on va travailler, on oublie.
On passe à autre chose, oui.
Exactement. Puis c'est cette espèce de gap-là pour nous qui manquait, en fait. Il y a beaucoup de plateformes de diffusion de contenu, il y a beaucoup de plateformes d'engagement social, mais il n'y a pas de plateforme qui regroupait les deux. Donc, c'est ce qu'on a tenté de faire avec Luminance.
Donc, vous diffusez les contenus des autres en plus d'être producteur de contenu?
Tout à fait. En fait, à la base, on est trois cofondateurs qui travaillent en contenu vidéo depuis maintenant 10 ans pour François et Sam et 4 ans pour moi. Et on avait un désir assez profond d'utiliser, si on veut, notre expertise en production vidéo pour le mettre au profit d'un bien commun, d'un impact positif, d'amener du contenu pour faire avancer, évoluer, changer les choses, mais surtout de s'attarder au positif parce qu'il y en a.
Oui.
Exact.
Je confirme, il y en a.
Oui, non, c'est sûr.
Il y en a plein.
C'est sûr. Et je trouve ça très bien de vouloir le souligner. Maintenant, comment retrouver... Bon, d'abord, est-ce que vous chargez pour être diffuseur? Si moi, je veux que ma vidéo soit diffusée chez vous, est-ce qu'il y a un comité qui détermine si c'est assez une bonne nouvelle ou pas suffisant, Luc? Comment ça fonctionne?
Non, en fait, c'est vraiment... On aime dire que c'est comme un réseau social. C'est-à-dire que les gens peuvent vraiment créer leur profil, créer leur page d'initiative sur laquelle ils peuvent ensuite diffuser leurs vidéos. Puis ensuite, c'est vraiment aussi l'idée d'entrer en commun avec des gens qui pourraient être intéressés à participer à cette initiative-là. Donc, il y a différentes fonctionnalités, si on veut, qui permettent aux gens de se regrouper entre voisins, par exemple. Il y a de la géolocalisation qui dit « Ah, il y a Catherine qui est pas très loin de chez toi, qui a des aptitudes complémentaires aux tiennes qui pourraient t'aider. » Donc, c'est comme une espèce de réseau que tout le monde peut s'approprier. C'est gratuit et où les gens peuvent diffuser leurs idées, brainstormer aussi avec les gens. Et nous, ce qu'on fait...
Tant en anglais qu'en français.
Tout à fait.
Parce que j'ai vu quelqu'un de Calgary.
Oui, c'est pas en canadien, en fait. Ouais. Donc, c'est bilingue. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde se l'approprie. Et nous, en tant que créateurs de contenu, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des séries web la première, c'est le road trip qu'on fait à travers le Canada où nous, on va à la rencontre de certaines personnes qui ont été sélectionnées parce qu'on trouve leur initiative inspirante. Mm-hmm. Et là, on fait des documentaires sur chacune de ces initiatives-là qui deviennent des initiatives phares, si on veut, sur la plateforme pour montrer aux gens comment ça fonctionne puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait.
M, tu m'as écrit hier que tu avais un petit extrait que j'ai pas pu consulter, mais que tu m'as dit que tu avais.
Effectivement, vous avez mis sur le site un extrait vidéo qui explique très, très bien le projet. C'est une narration, on va l'écouter.
« Baie-Saint-Paul, une belle municipalité au cœur de Charlevoix dont vous avez peut-être entendu parler grâce au Festif. Le Festif, c'est quoi? C'est un festival de musique qui est devenu un incontournable au Québec.
Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on cherchait, mais ça, ce n'est que partie remise parce que ça, c'est une vidéo que Frédéric t'a produite, ouais. Que moi, j'ai entendu, j'ai tout compris, j'ai bien aimé, j'ai été capable de la trouver parce que c'est un site qui a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des choses qu'en tant que personne aveugle, j'avoue, j'ai eu un petit peu de difficulté, mais tout est quand même assez... Une fois qu'on le comprend, le site, et que quelqu'un nous a aidés à s'y retrouver, je pense que c'est fonctionnel.
Bien, en fait, on est en train aussi d'évoluer, là, c'est-à-dire qu'on l'a mis en ligne puis on prend vraiment les commentaires des gens puis on est en train d'améliorer aussi l'accessibilité à tout ça, au contenu, à comment naviguer. Il y a la page à propos qui explique bien aussi. Mais oui, tout à fait. C'est certain que c'est d'envergure quand même.
Le site en question, donc luminance.co. Là, j'ai vu que vous aviez quand même une subvention.
Oui.
D'un organisme pancanadien, mais que vous aviez quand même encore besoin parce que, bon, il n'y a pas de limite à nos rêves.
Ben oui. Non, tout à fait. En fait, c'est un investissement qu'on a reçu du Fonds des médias du Canada qui est quand même différent de la subvention. Mais c'est certain qu'on a des visées de pouvoir continuer à faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que cet investissement-là nous a permis de bâtir la plateforme qui est quand même, avec les fonctionnalités là, de réseau social, ça va vite. La facture monte vite. Donc, d'y réfléchir, de la bâtir et de faire la première série web qui est le Road Trip pancanadien qui se déroule en ce moment cet été. Puis par la suite, c'est vraiment, on est en train d'explorer comment on va faire en sorte que les gens vont pouvoir nous aider aussi, participer à tout ça pour qu'on puisse continuer à exister puis à faire de plus grandes choses encore.
Mais ce qui est intéressant, et j'invite les gens vraiment à aller au-delà de l'expression road trip, parce que ce n'est pas juste une façon de découvrir des régions, là. C'est vraiment une façon de mettre en lumière quelque chose d'intéressant qui se passe dans cette région-là. On va écouter une vidéo que tu as fait sur un des festivals dans le coin de Baie-Saint-Paul. Il y en a un autre qui, lui, est allé parler d'un concept que moi, j'ignorais complètement. Je ne sais pas, est-ce que tu connais les demi, toi, Emmanuel?
Pas du tout. Ah oui!
Ça, c'est complètement flyé. D'ailleurs, j'ai pas voulu la mettre parce que je pense que le visuel aide à mieux comprendre la vidéo.
Tout à fait.
Et comme c'est de la radio, bon, je me disais, c'est peut-être moins... Mais allez, c'est un nouveau concept où les gens prennent la paire de ciseaux, coupent le 20$ en deux, ce qui fait que finalement, c'est 2,10. Oui, je pense que c'est illégal, mais...
Non, ils ont validé certaines choses, en fait. C'est au niveau de la banque, les billets peuvent être coupés et ont chacun leur valeur.
Et des billets en polymère, pas facile à couper, ça.
Non, ça va. Mais l'idée étant, la monnaie, non. C'est ça, le truc.
L'idée étant, donc, les magasins qui acceptent la moitié du vin vont te permettre d'acheter des produits chez eux. Et ils se disent, en acceptant ça, le client qui a de l'argent comme ça, c'est sûr qu'il va venir la dépenser chez nous. Donc, ça incite, voire force, le commerce local.
Tout à fait.
C'est complètement fly. Frédéric, bon succès.
Merci.
Je pense qu'il faut être touché avant de vouloir toucher notre porte-monnaie. Donc, allez sur luminance.co. Vous verrez si c'est une idée auquel vous voulez participer financièrement. Sinon, peut-être offrir du contenu vidéo. Et nous, on s'en va du côté de Baie-Saint-Paul grâce à l'une des productions de Frédéric.
Merci beaucoup.
Salut.
Baie-Saint-Paul, une belle municipalité au cœur de Charlevoix dont vous avez peut-être entendu parler grâce au Festif. Le Festif, c'est quoi? C'est un festival de musique qui est devenu un incontournable au Québec grâce, entre autres, à sa politique de développement durable qui est vraiment unique en son genre. On s'en va rencontrer les deux cofondateurs qui vont nous en parler un peu plus.
Concrètement, qu'est-ce que c'est la politique de développement durable du festif?
C'est surtout prioriser l'achat local. Nous, local, on parle d'un rayon de 100 km de Baie-Saint-Paul. Sinon, transport alternatif, des navettes, du covoiturage, tout le plastique. Donc, les bouteilles d'eau ont été complètement rayées de Baie-Saint-Paul. Fait que dans le fond, nous, on a fait faire des gourdes qui sont données aux artistes, premièrement, parce que, évidemment, que ça arrive qu'un artiste nous demande deux caisses de 24, deux bouteilles d'eau pour un show, bien maintenant, nous, on doit dire non à ce genre de choses. Puis on dit, bien, vous allez avoir une gourde et vous allez la remplir. Puis
on a vu une évolution dans les dernières années. Vraiment.
D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que c'est comme une tribune au développement durable qui est le fun, qui est cool. Tu sais, des fois, c'est comme si c'est toujours des efforts qu'il faut mettre le développement durable. Puis là, les gens voient ça comme une corvée. Le festif, c'est comme une grosse fête.
Ça fait partie du party.
Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du fun, ça fait partie du party, comme tu dis.
Un festivalier qui est au courant que nous, on le respecte, puis on respecte l'environnement dans lequel on est, tout ce minding-là, il arrive avec au festif. Donc nous, les festivaliers qui arrivent sont tellement respectueux, les sites sont propres. Toutes ces personnes-là repartent avec l'idée que tout ça, ça se fait. Puis c'est possible, puis c'est pas si compliqué que ça.
Tu sais, la politique, on parle beaucoup de récupération de l'environnement, mais développement durable, c'est aussi être responsable dans sa communauté. On a fait récemment le festif à l'école, donc on amène des artistes, des carrés moellettes à la Claire Ensemble vers les jeunes dans les écoles. On fait des ateliers d'écriture, des conférences pour motiver les jeunes à écouter de la musique francophone.
Ce soir, je te fais danser.
Le festif puis sa politique de développement durable dans 15 ans, là, si on revient s'asseoir sur la galerie puis qu'on s'en parle, qu'est-ce que ça va devenir?
Bien, qu'on continue à évoluer. Moi, j'ai le rêve fou que tout soit alimenté au solaire, ce qui va prendre énormément de temps. Puis espérer que, c'est sûr que des partenaires avec la municipalité embarquent encore plus avec nous pour nous aider à pousser davantage.
Puis moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que le festif reste audacieux, premièrement, puis reste inspiré des autres, parce que dans le monde, ça se fait, là. Il y a tellement d'initiatives qui sont faites partout dans le monde. Puis nous, bien, présentement, ça nous allume énormément de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Clément, il check les scènes solaires partout dans le monde.
En Islande, il y a un festival qui est alimenté par l'énergie des volcans.
Tu sais, c'est quand même incroyable, tu sais.
Puis là, cette année, il y a une nouveauté qu'on va aller découvrir, une bière. Une bière, le festif.
Oui.
Qui se veut un petit peu un hymne au développement durable aussi.
Oui, on n'en parlera pas trop. On va laisser les experts vous en parler. Mais c'est une grosse nouveauté cette année.
C'est vraiment cool et inspirant de voir à quel point le développement durable, ça fait vraiment partie de l'ADN du festif. Donc là, on s'en va à la rencontre de Nicolas Marant, de la microbrasserie Charlevoix, de Meggy, de la boulangerie À chacun son pain, et de Charles, en charge des communications du festif, pour qu'il nous explique un petit peu mieux là, la nouvelle bière du festif. C'est quoi exactement cette bière collaborative? Donc là, on va pouvoir encourager, goûter à une bière qui favorise la collaboration comme ça à Charlevoix. C'est quoi cette bière-là, Nicolas?
C'est un concept vraiment à trois. Je pense que c'est unique. Ça, c'est déjà vu dans le monde de la bière, mais c'est unique en tout cas dans l'histoire de Charlevoix. Ça reste une bière légère, donc 4,5 d'alcool. On s'entend que le festif, on n'allait pas leur faire une bière à 10-12 d'alcool en plein soleil.
On aurait un problème. Puis d'ailleurs, la bière est faite à partir des invendus de la boulangerie À chacun son pain.
Ils nous ont approchés, puis nous autres, tout de suite, on a dit oui, parce que autant qu'on aime ça, tout vendre en termes d'une boulangerie qui fait du produit frais tout le temps, bien, c'est pas ça la réalité.
Cette bière spéciale Le Festif, c'est donc une création collaborative qui vise à enrayer le gaspillage alimentaire. Il était temps que des boulangeries et des microbrasseries s'associent pour transformer les invendus de pain en bière. Cette pratique favorise une économie circulaire où les pertes de l'un deviennent les denrées de l'autre.
Un produit fait par les gens de Charlevoix, par des entreprises avec les, qui partagent les mêmes valeurs. Ça fait longtemps qu'on y rêve, puis ben, cette année, le contexte était là pour ça. Fait que ça valait vraiment la peine de dire, bon, let's go, c'est cette année que ça se passe.
On aime ça, s'encourager les uns les autres. On espère d'être toujours là quand quelqu'un a besoin. Là, on l'a démontré avec la meilleure bière de la microbrasserie jusqu'à présent.
Bon, on n'a peut-être pas connu une belle journée chaude d'été comme on pourrait le connaître au festif, mais n'empêche que c'est vraiment inspirant de voir à quel point ces gens-là ont rendu un événement éco-responsable aussi trippant. Non, mais tu sais, une bière au développement durable, y a-t-il quelque chose qui goûte meilleur?
C'est vrai qu'une bière en développement durable, c'est sympathique. Il y avait la brasserie Boréale qui avait aussi bon, certaines bières pour aider des animaux en espèces, disons, des espèces d'animaux qui étaient mal en point. Alors, on aime
et
ça
Dieu sait
des...
qu'il y en a plusieurs.
Oui. Alors, on aime ça quand des microbrasseurs se mettent la main à la pâte. Et dans ce cas-ci, ben, non seulement c'est très, très vert, V-E-R-T, même si on parle de bière, mais aussi ça aide le financement du festival.
Mais tellement. Puis, sérieusement, des initiatives, des choses, il y en a à l'infini qui peuvent aider, qui peuvent servir de motif pour aider quelque chose. C'est pas obligé d'être lié. Tout est une bonne raison pour changer le monde. Et j'ai pas à m'en dire qu'on est tous nés comme dans naître. On est tous avec une force, avec quelque chose qu'on est capable d'apporter au monde. Et moi, j'encourage toujours les gens à le faire.
Oui, puis de toute façon, il y a du bénévolat à faire maintenant de plus en plus en pyjama où tu peux aider à distance.
Ah, vraiment?
Ouais. D'ailleurs, une autre réalité très, très humaine, c'est celle que Stéphanie Drolet pilote, elle qui est présidente fondatrice de la Fondation Yvon Michel. Bonjour Stéphanie.
Allô, ça va bien?
Ça va très bien. Merci beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse avec Emmanuel parce que... Non, mais c'est vrai, on est content de vous parler.
On est très...
Ça fait plaisir.
Très content de parler de cette nouvelle initiative, une nouvelle fondation pour la lutte contre le cancer du sein. Fondation Yvon Michel, bien sûr, qui a été inaugurée le 16 juillet dernier.
Oui, c'est ça. C'est quand même assez compliqué hein, quand on veut partir d'une fondation. On pense qu'on lance ça en écrivant sur les réseaux sociaux, mais ça prend un avocat, ça prend un fiscaliste, ça prend un comptable. Puis tous ces gens-là ont décidé d'embarquer de façon bénévole aussi avec moi parce que la paperasse, là, il y en a, ça ancre à tous les jours. Il y a des mots que je comprends même pas. Puis là, qui regarde, dites-moi où signer. Là. Je sais qu'ils travaillent avec moi, eux autres. Alors, c'est pas des gens qui vont essayer d'excuser le mot, là, mais de me fourrer.
Et on le dit souvent, alors... de toute façon, il faut être plusieurs cerveaux. Ça vaut mieux qu'un. Chacun a sa place. C'est pas parce qu'on veut aider une cause qu'on peut tout faire non plus. Il faut être entouré, là.
Ah oui, il faut être bien entouré. Puis moi, ben, je bénéficie aussi du soutien d'Yvon. Moi, c'est pour ça que les gens me demandent pourquoi Stéphanie, tu as décidé d'appeler ça Fondation Yvon Michel. C'est quand même assez simple. Stéphanie Drolet, il n'y a pas un chat, même si j'ai fait de la radio puis de la télé pendant longtemps, qui vont me replacer. Tandis qu'Yvon Michel, ben, c'est une notoriété publique, c'est une personne publique, c'est une personne qui est dans les journaux presque à chaque semaine de par le groupe Yvon Michel, de par ses boxeurs.
Oui, puis c'est peut-être plus gênant de lui dire non aussi. Il y a tellement de contacts. Il me semble que quand, tu sais, dans un petit gala de boxe, là, il fait le tour, c'est plus gênant de dire non. Je te donne des billets de courtoisie, mais en échange, t'aides ma femme.
C'est ça, puis des fois, j'ai envie de leur dire aux gens, « Hey, c'est parce que tu m'as tellement têté des billets dans les dernières années, peux-tu comme dire oui? » Je t'invite, toi, parce que c'est sûr que moi, je veux baser beaucoup mon message sur les bienfaits du sport lorsqu'on est atteint ou lorsqu'on est en rémission du cancer. Donc, oui, il va y avoir des athlètes comme Guy Lafleur, comme Lucien Bouté ou Eléider Alvarez qui vient devenir champion du monde. J'ai des gens de football, j'ai des gens des anciens Olympiens pour que le message, ben, dans le fond, j'ai des bons ambassadeurs qui sont là. Mais outre le fait, pour moi, c'est oui, on te donne des billets, sauf que quand on t'offre en plus un souper gratuit, juste pour que tu puisses venir assister à ça, puis c'est notre première. Disons oui, mais je te jure, là, ils ont été rares ceux qui n'ont pas embarqué avec nous dans la fondation. Là, c'est sûr qu'un voyage à l'extérieur peut empêcher, là, mais tous ceux qui sont disponibles ou qui sont pas en onde à la télé ou à la radio cette journée-là, à qui on a demandé, ils ont tous embarqué là, avec un grand bonheur.
Donc la réponse est positive et ça veut dire qu'à quelque part, la cause du cancer du sein, au-delà du nom, je pense, on sert pas quelque chose en quoi on croit pas. Ça veut dire qu'elle touche beaucoup de gens par elle-même. Les objectifs de la fondation, ce sont lesquels?
Bien, en réalité, nous, on s'est donné comme mission de départ parce que dans les paperasses de gouvernement, là, on essaie d'être précis, mais en étant large le plus possible pour pas qu'on se fasse dire « ça marche pas, recommence ta demande ». Donc moi, étant donné que ma mère a eu le cancer du sein, que je l'ai vécu en tant qu'aidante naturelle, j'ai dit oui.
Et adolescente également.
Oui, hey, ça marque. Moi, j'avais 18 ouais. ans. Ouais, si ça marque, j'ai 43 ans aujourd'hui, puis juste le fait d'en parler ou de tenir le discours que je vais tenir pour la troisième fois lors du souper bénéfice du 18 octobre, les images sont tellement encore fortes et présentes dans ma tête. Je ne sais pas comment on peut chasser ça de notre esprit. Donc, moi, je me suis dit, oui, on va soutenir la recherche parce que de plus en plus, on en sauve. De plus en plus, malheureusement, les femmes ont le diagnostic de cancer du sein dans la trentaine. J'ai une jeune femme de 35 ans qui m'a écrit sur les réseaux sociaux, Stéphanie, merci de te battre pour nous sans nous connaître.
Ah, c'est beau.
La fille a 35 ans, elle est atteinte d'un cancer du sein métastasique au foie stade 4. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Il lui reste quelques jours à vivre parce que c'est rendu dans son cerveau. Mm-hmm. 35 ans, ça fait de bon sens. Un de nos boxeurs, Michael Zutki de Trois-Rivières, sa belle-sœur, 31 ans, ablation des seins. Elle a deux enfants. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je ne le sais pas. Donc oui, il faut continuer de supporter la recherche parce que malgré le fait qu'elles sont de plus en plus jeunes, on en sauve de plus en plus aussi. Mais ce qu'on veut également, c'est d'aller dans les hôpitaux à travers le Québec puis d'aller voir les médecins sur leur terrain puis de leur demander qu'est-ce que vous avez besoin comme équipement.
Donc on veut, aider la recherche, aider les hôpitaux, améliorer leur qualité de vie également. Et jusqu'à maintenant, vous avez ramassé 55 000 $ il nous reste deux minutes et je veux absolument, absolument qu'on parle de ce 18 octobre prochain, un autre événement bénéfice qui va arriver qui va vous aider pas mal, on va se le dire, là.
Ah oui, exactement. Là, c'est notre grande première. C'est la première fois. Ils vont à chaque année, mais bon, qu'est-ce que tu nous réserves? Bon, premièrement, cette année, on part notre fondation. Là, on va diriger...
Juste ça, notre... hein?
Oui, non, mais on va diriger l'argent où bon nous semble. Et puis, bon, alors, ce qu'on fait cette année, mon chéri, ben c'est un souper bénéfice. On va faire ça au Mirage. C'est pas besoin d'avoir de tournoi de golf avant. Juste le cocktail, le souper, un encan crié, un encan silencieux. On va vendre également des ballons roses parce que ça, là, je le dis pour tous vos auditeurs qui écoutent, là, quand vous faites une soirée bénéfice puis que vous vendez des ballons, les gens sont tous excités d'avoir leur ballon. On dirait qu'on a deux ans d'âge mental, je te jure. Même moi, je piétine, puis genre, je veux celle-là, je suis toute énervée. Donc, 20 $ le ballon. Et lorsque tous les ballons seront vendus, ben il y a un voyage au Club Med qui sera tiré là, parmi. Alors, c'est beaucoup de sous qui seront amassés. C'est sur le fait aussi d'avoir des personnalités comme celles que je vous ai mentionnées tout à l'heure.
Il nous reste un petit 30 secondes, Stéphanie. Je veux absolument que les gens se rendent sur... au rubanrose.org. Sinon, écrire au stéphanie.drolet@commercialvideotron.ca. Madame Drolet, merci infiniment et magnifique succès pour cette initiative qui vient du cœur.
Gardez votre passion.
Vraiment.
Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
On parlait des ballons, on va parler de toutou, hein? Le cœur qui a deux ans. Là.
Le cœur d'enfant.
Vous écoutez Aime l'été.
Juste avant l'émission, je me suis enfilé très, très, très rapidement un sac de croustilles, probablement avec du gras animal. Est-ce qu'Emmanuel, t'es vegan?
Je suis encore flexi, mais je me souhaite vraiment de tomber légumes, fruits et noix d'ici la fin de ma vie, ça c'est sûr.
Ouais, ouais. Mais personne n'est contre
la vertu. Mais je suis très bien partie.
J'en doute même pas. Moi, je pense que ça va y arriver avant la fin de ta prochaine décennie.
Moi aussi, je le pense.
On va parler véganisme dans la deuxième partie de cette demi-heure. On va parler également de peluches. D'ailleurs, j'ai failli amener mes deux peluches. Je me suis demandé... Est-ce que je suis prêt à m'en départir?
Tu l'as pas fait. La réponse était non.
Non, la réponse était... Il faudrait que j'y repense encore.
On va te laisser le temps d'y passer.
Entre autres, j'ai un poney.
Journée, elle fait non, 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 non.
la poupée qui fait non par les sultans.
Parce que des fois, nos toutous disent non, non, plus maintenant, plus jamais, je meurs.
Ouais,
des fois.
Les pauvres toutous.
Des fois.
Erika Perrault. Bonjour. C'est quoi votre premier toutou, vous?
Quand moi, j'étais enfant?
Ouais. Celui-là qui, disons, le premier qui vous a marqué.
Ben, moi, j'avais pas un toutou, mais c'est un peu étrange à dire, mais...
On vous jugera pas.
Mais pas du tout.
J'avais une peau de lapin.
OK.
Voilà. C'était avec
ça devait quand même être doux.
Juste avant la chronique véganisme, j'adore.
Voilà.
Il y a Sophie à côté qui s'en est un
petit peu dîner. J'adore. Vous êtes dans mon équipe, Erika.
Oh, ça, c'est drôle.
Parlez-moi de Raplapla.
Alors, Raplapla, c'est une compagnie qui fabrique des jouets en tissu, des poupées en chiffon, évidemment. Et on est à
Montréal.
Donc, il n'y
a pas que de la peluche.
Non, ben c'est poupée et peluche.
Ouais.
Nous, notre spécialité, c'est la fabrication locale. Ça existe depuis 13 ans. Et on a un atelier boutique qui est situé dans le Mile-End depuis 9 ans.
C'est ça, vous êtes à Montréal. C'est oui. Ça qui est super le fun.
On fait tout à Montréal ou au Québec, là, au maximum de ce qui est possible. Donc, nos emballages sont faits à Saint-Hyacinthe, par exemple. On achète toutes nos fournitures ici de fournisseurs locaux. Puis, ce qui peut être fait sur place, on le privilégie toujours.
Mais la différence, parce que bon, il y a d'autres compagnies, disons, plus connues, plus internationales, là, qui se spécialisent dans la fabrication de toutous, particulièrement, bon, ça passe souvent par l'Asie. Mais pourquoi justement se lancer dans une industrie où probablement que vous êtes obligé de charger un petit peu plus cher, peut-être que vous n'avez pas la distribution des grands magasins, ça ne doit pas être évident de se lancer dans une aventure comme celle-là?
Non, c'est sûr. Ben, évidemment, c'est plus cher. Évidemment, c'est difficile d'avoir accès à la grande distribution aussi. Après, quand j'ai commencé, j'avais pas nécessairement en tête toutes les contraintes qui surviendraient. Ouais. Une autre que
des fois, c'est mieux.
C'est oui, d'y aller naïvement, effectivement.
Réellement. Mais une autre que vous n'avez pas mentionnée, c'est toutes les difficultés par rapport aux normes de sécurité qui sont super importantes, super bien faites par Santé Canada, évidemment, mais qui ne sont pas toujours très adaptées à des toutes petites entreprises.
Comme quoi, donc, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas savoir?
Ben, par exemple, si nous, on fait une production de 20 toutous dans un certain tissu, on doit faire un test d'inflammabilité sur le tissu qui va nous coûter, disons, 800 $. Oups, tout d'un coup, comment on fait pour pouvoir...
s'allier à cette dépense-là.
Oui,
ben oui, tout à
c'est
fait.
Ça. En tout cas, il y a toutes sortes de réflexions qui doivent se prendre, rapides de décisions par rapport à ça, mais... Parce qu'évidemment, dès le départ de Raplapla, c'était dans nos priorités de respecter les normes de sécurité.
Donc, vous êtes un fabricant de petits personnages doux, mais vous êtes aussi un rafistoleur. Vous êtes ce qu'on aime appeler un hôpital pour ces personnes en tissu.
Exactement. Alors, depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, on a un hôpital pour personnes en tissu. Donc, on répare les poupées en tissu, les peluches de toutes marques. Ça a commencé, en fait, avec des demandes pour réparer les Raplapla, parce qu'après quelques années d'usage ou, disons, un accident, une rencontre avec un chien, par exemple, les propriétaires venaient nous voir pour qu'on répare leurs jouets. Et puis, ça s'est étendu. On nous a dit, on a aussi telle girafe qui est adorée chez nous. Est-ce que vous pourriez nous la réparer également, etc. Donc, petit à petit, l'idée a germé. Et on a ouvert notre hôpital qui rencontre un grand succès. Notre chirurgienne s'appelle Dominique et au fil des années, elle développe un talent incroyable pour réparer les jouets.
Et justement, bon, comment va le système de santé pour les personnes en tissu? Disons, le temps d'attente dans les urgences?
Il y a des périodes un petit peu engorgées, mais Dominique s'en sort très bien.
Avant les fêtes, peut-être?
Oui, ça peut arriver avant les fêtes parce que certaines personnes voudraient offrir... un toutou qui avait été adoré, le faire restaurer pour l'offrir pour cette période-là. Mais on gère toujours les urgences, pas forcément par ordre d'arrivée, mais par importance selon nos critères. Puis si c'est un toutou d'enfant qui est nécessaire au bon sommeil, il va toujours passer avant,
Mais c'est quoi les critères de priorité, justement? Le fait que l'enfant doive dormir avec?
Oui, c'est ça. Ben, le fait que l'enfant puisse pas s'en passer, parce qu'on reçoit beaucoup de toutous d'adultes aussi, qui ont été aimés pendant...
Donc, les enfants et les femmes d'abord.
À peu près.
À peu près, non, mon mais... Dieu,
ça fait Titanic.
Ah, c'est, ben, j'y pensais, je l'avais dans la tête un peu.
Qu'est-ce que je fais, moi, avec mon poney et mon ourson, dans le sens... Le jour où je me dis... Fortin, là, ils sont dans le tiroir, tu les as toujours cachés parce que tu veux pas que personne les voit, donne les dons à quelqu'un, est-ce que vous pourriez servir d'intermédiaire ou peut-être me diriger vers des gens qui vont le redonner à quelqu'un qui, lui, va s'en servir?
Ben, ça, c'est une question qu'on se pose parfois, mais on n'est pas rendu là encore dans notre offre. Mais effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Là,
avez-vous un service de distribution, disons, pour les gens qui sont peut-être éloignés de Montréal? Pour que ce soit la poste, je ne sais pas trop, là.
Pour les raplapla, pour les jouets que nous fabriquons, en fait, via notre site en ligne, c'est très facile.
On peut commander quand on est en région,
vraiment,
chez vous,
oui,
là,
on a plein
problème.
De clients en région.
Et on parle, bon, on se dit, oui, là, Dominique s'en sort très bien, on n'est pas encore tout à fait rendu à distribuer des toutous dont les gens voudraient donner. Ce que je lisais sur vous, en fait, c'est que vous êtes très occupé avec les courriels et tout ce qui est administratif, parce que c'est plein de côtés dont on ne s'attendait peut-être pas. Il y a la main-d'œuvre, mais il y a aussi l'administration de tout ça. Vous en êtes où là-dedans? Est-ce que vous allez embaucher? Est-ce que vous allez agrandir éventuellement?
Ben, c'est sûr qu'une petite entreprise, c'est beaucoup de gestion. Pour le moment, on est quatre à travailler chez Raplapla. Et puis, on a ma chère couturière qui travaille en sous-traitance avec nous depuis 10 ans. Donc, on a quand même beaucoup d'aide déjà. Mais pourquoi pas, si ça va bien, pourquoi pas s'agrandir?
Ben, vous le souhaitez.
Erika, on m'a dit, tu dois lui parler des sœurs Tutu. Qui sont les sœurs Tutu?
Oui, les sœurs Tutu, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Quand vous achetez une des poupées Tutu, sa jumelle est remise à un enfant qui est hospitalisé ou qui est dans le besoin, selon les causes.
On a toutes mis une main sur notre cœur ici en studio, on est toutes touchées.
Donc, quand vous achetez une de ces poupées, on vous demande, en plus de donner sa jumelle, on vous demande aussi de remplir une petite carte pour l'enfant qui va la recevoir.
Mais il y a quand même séparation de jumelles, là.
Il y a séparation de jumelles, absolument.
C'est super mignon. Vous êtes où dans le Myland?
On est sur la rue Villeneuve, 69 rue Villeneuve-Ouest.
Okay.
Et on se rappelle, qu'on peut commander en ligne, tout à fait. Pour les commandes en ligne, votre site Internet?
www.raplapla.com.
Très facile.
Vive la peau de lapin. Merci beaucoup, Erika Perrault. Je fais exprès parce que Sophie Lecomte s'en vient. On va causer vinganisme après la pièce qui suit.
Merci.
Ce n'est sûrement pas vrai, tout ce qu'on raconte sur Sophie, ça ne peut être vrai, sinon j'aurais honte. De Sophie, non, je ne peux pas croire à la voir si blonde. Ma Sophie, qu'à ce point je me sois trompé sur son compte. Ce n'est sûrement pas vrai, tout ce qu'on raconte sur Sophie, et je la défendrai tant que je vivrai. Car je l'aime, les rieurs ont beau jeu, mais devant moi ce sont eux qui baissent les yeux. Je sais que ce n'est pas vrai ce que les gens disent de Sophie, je ne croirai jamais toutes ces bêtises sur Sophie, car je la connais bien, elle est sans méfiance. Ma Sophie, elle parle aux copains en toute innocence, sans savoir qu'avec certains et leur médisance, il suffit parfois de trois fois rien pour faire un potin. Des gens parlent, parlent, parlent et reparlent. C'est une maladie, et bien sûr les autres croient douce qu'on leur dit. Car toutes les filles sont plus ou moins jalouses de Sophie, et je vois les garçons dans les yeux épouses. Ma Sophie, alors s'il faut choisir entre cette engeance et Sophie, j'aime autant vous le dire, j'ai choisi d'avance. Je n'ai qu'à plonger les yeux dans les yeux immenses de Sophie, tout est limpide et bleu, et je suis heureux. Car je l'aime, et surtout sachez bien que les gens du monde entier n'y changeront rien, 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 rien.
Charles Aznavour, Sophie.
Parce que Sophie, 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 Sophie Lecomte, qui est en studio. Salut Sophie!
Allô!
Parce que c'était ta dernière, il fallait quand même souligner ta présence plus personnellement avec cette chanson d'Aznavour.
Et c'est exactement Charles Aznavour, qui d'autre? T'sais?
Mais pourquoi Sophie, tu recommences à manger de la viande lundi? Pourquoi c'est ta dernière?
Mais je sais pas, on m'a dit trois. C'est ah, sûr okay. que
mais trois, c'est un beau chiffre. Hein?
Oui, ouais. oui, c'est
mais
vrai.
J'y prends goût, comme... c'est vraiment le fun.
Nous aussi, on y prend goût à ta chronique vegan, faut le dire. Et aujourd'hui, tu... t'assure que malgré que ce soit ta dernière chronique, mm-hmm. pour Emlété, en tout cas, on ne sait mm-hmm. pas ce que la vie nous réserve, ben, qu'on continue à avoir quand même des ressources et des choses à faire dans le monde vegan.
Absolument. En fait, je vous ai parlé de livres, les définitions, on a fait un peu le tour de la question. Restaurant, j'espère que les auditeurs et auditrices ont pu avoir la chance de découvrir certains restaurants dont j'ai parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je me dis comment, un peu la pérennité, tu sais, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'initier à ça, et quoi de mieux que le Festival Vegan qui s'en vient au mois d'octobre cette année. Et cette année, c'est au Palais des Congrès. Ça fait plusieurs années qu'il y a des discussions au sein des organisateurs, à savoir, évidemment, le Palais des Congrès, c'est très, très gros.
C'est grand, oui.
C'est très grand.
Il faut le remplir.
Oui, mais l'édition actuelle, en fait, c'est depuis 2014, hein, le Festival Vegan. Les dernières années, c'était au marché Bon Secours. C'est toujours deux jours. Les gens se demandaient, est-ce qu'on fait payer pour entrer, pour pouvoir avoir un espace plus grand? Et ça a toujours été, non, on veut que ça soit gratuit, on veut que ça soit accessible. Et à chaque année, il y a eu plus de monde qui s'attendait à ce qu'il y ait, donc c'est bondé de personnes. Alors là, pas le choix, le Palais des Congrès s'impose, c'est le 20 et 21 octobre.
Le 20 et 21 octobre, et est-ce que ça reste gratuit?
C'est gratuit.
Ils ont réussi?
Oui, madame, c'est merveilleux.
Wow.
Donc comme je vous ai dit, c'est rendre ça accessible le plus possible.
Et qu'est-ce qui nous attend? Parce que là, je veux dire, beaucoup de monde, Palais des Congrès, il y a des kiosques en masse.
Ah mon Dieu, c'est infini
c'est
le nombre
fin.
De choses. Oui, c'est ça. Évidemment, il y a des kiosques des exposants. Moi, je vous invite à y aller pour aller rencontrer la communauté végane, parce que le bénévolat et le temps et l'énergie qui se fait et qui se met de la part d'une poignée de personnes, je vous dis là, c'est impressionnant. Là. Il y a très peu de gens qui sont organisateurs. Il y a énormément de bénévoles et tout se fait bénévolement, en fait. Il n'y a personne qui est rémunéré pour faire ça. Donc, juste aller voir la communauté, comment les gens s'organisent pour faire valoir ce mouvement-là. Et ce n'est pas que le véganisme au niveau alimentaire, hein, comme on avait parlé. Évidemment, il y a des exposants, bouffe, resto, trucs. Mais
parce qu'on se rappelle que le véganisme, c'est un mode de vie. Ça dépasse l'alimentation, ça dépasse l'assiette, c'est les cosmétiques.
Ouais. C'est politique, c'est social, c'est d'aller plus loin que juste individuellement, qu'est-ce qu'on fait. Donc, ce qui est intéressant cette année, le porte-parole, c'est Jean-Philippe Cyr. Je ne sais pas si vous avez la chance d'en entendre parler.
Est-ce la cuisine de Jean-Philippe?
Oui, madame.
Attends, on l'aime assez, cet enfant-là.
Mais oui, c'est comme quelqu'un qui arrive comme ça, qui rend le véganisme super accessible, une personnalité accessible aussi. Donc, il y a son site web, La cuisine de Jean-Philippe. Il y a des vidéos aussi avec lesquelles il va démontrer quelques recettes. Et je vous dis, là, moi, je cuisine quand même beaucoup depuis... Ça fait 9 ans que je suis végane. J'adore cuisiner, j'adore manger, on en a parlé. Mm-hmm. Et c'est très rare que je vais suivre des recettes. Je vais m'inspirer. Mais le livre de cuisine de Jean-Philippe, je vous jure qu'on suit des recettes à la lettre et c'est toujours parfait. Simple, accessible, parfait, délicieux. Tout le monde est en amour avec. C'est pas pour rien qu'il est hyper populaire.
Puis ça a monté en flèche, son affaire.
Oui, oui, absolument, absolument. Puis c'est parce que il y a quelque chose de très, très accessible là-dedans. Donc, c'est le porte-parole cette année. Encore une autre raison d'aller visiter le Festival Vegan pour avoir la chance de rencontrer, mais rencontrer aussi beaucoup d'autres personnes dans la communauté vegan. Par exemple, évidemment, il y a des exposants, comme je disais, la dégustation, produits disponibles, on peut acheter des trucs, la bouffe, il y a des restaurants qui vont présenter leurs produits. Moi, je vais là, puis je déjeune pas le matin. Je vous dis, là, je déjeune pas.
Mais non, mais
limite,
c'est sûr, c'est comme c'est, des dégustations après dégustations,
oui,
ça
c'est ça,
n'en
exactement.
Finit plus.
Puis voir les initiatives populaires aussi, par exemple, il y a, je fais une petite parenthèse, le groupe Nourrir que j'ai rencontré là-bas, c'est un groupe d'achat de trucs en vrac, tout bio, en fait. Donc, on paie la commande d'avance. Eux, ils achètent en fonction du nombre de commandes et on va chercher avec nos pots, nos contenants. Donc, pratiquement zéro déchet. Les gens ne se font pas d'argent là-dessus. Donc, on économise énormément. On peut acheter des trucs bio au prix presque similaire à du non-bio pour les gens que ça intéresse.
Et ça s'appelle?
Nourrir.
Nourrir.
Oui, il y a plusieurs maintenant. Ça a commencé, je pense, à Val-David. Maintenant, il y a il y en a à Laval, il y en a à Montréal, il y en a à beaucoup, beaucoup d'endroits dans le Québec. Donc, j'ai découvert cela. Il y a aussi, bon, évidemment, les fromages vegan, le kombucha.
Ça, je m'excuse, est-ce qu'on peut faire un aparté sur les fromages vegan?
Oui.
Parce que ça, c'est quand même la plaie de beaucoup de vegans.
Ouais.
C'est la chose, je pense, la plus difficile à remplacer ou à trouver.
Mm-hmm.
On voit plusieurs fausses étiquettes, première des choses. Premièrement, il y a beaucoup de produits qui se disent vegan qu'ils ne le sont pas du
ah,
tout.
Ah oui, hein?
Avec des protéines de lactose, ben oui, vraiment.
Donc,
ouais.
On n'en nommera
là.
Pas, mais regardez bien les ingrédients derrière. C'est pas parce que c'est marqué que c'est vegan que ça l'est nécessairement. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Regarde mon désespoir!
Le désespoir. Oui, oui. Moi, pendant longtemps, j'ai comme juste cessé de consommer des fromages, même des fromages vegan. Ça, j'ai juste pris des nouvelles habitudes.
Mais c'est vraiment ça. C'est
oui.
vraiment
ouais,
ça.
Ouais.
Mais puis, je me suis même rendu compte à un moment donné, j'achetais des fromages vegan ou j'en faisais moi-même et je les utilisais presque pas parce que j'ai perdu l'habitude. Par contre, okay. Là, je dois vous dire qu'étant gourmande, je découvre des choses. Et de plus en plus, les fromages véganes sont vraiment intéressants. Il y en a qui vont être spécifiquement pour, par exemple, qui vont bien fondre sur une pizza. Hier, mes parents m'ont reçu avec une pizza végane, le fromage d'Eya, qui, au début, je dois dire, était très peu intéressant. Ils ont changé leur recette, ils ont évolué et c'est rendu vraiment très intéressant. On peut trouver aussi des fromages faits, justement, le Gusta est fait au Québec, à Montréal. Mais il y a aussi le Veg Nature qui se veut un peu comme un fromage de chèvre que j'achète très régulièrement, que je trouve vraiment, vraiment délicieux pour les mêmes fonctions que n'importe quel fromage de chèvre.
Moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup de ton idée de festival gratuit, c'est que, bon, parce que effectivement, bon, je fais des blagues, là, mais j'aimerais ça, moi aussi, au niveau rationnel, diminuer ma consommation de produits animaux.
Mm-hmm.
Et mais là, ce qui est bien, c'est que tu peux goûter à tout. Et chaque item que tu achètes, chaque item que tu intègres dans ton menu régulier, c'est déjà un petit plus.
C'est énorme, en fait.
Ouais.
C'est énorme parce que... Et c'est pas... comme je disais, oui, il y a le fromage, il y a même les imitations qu'on va dire de viande. Là, les gens ne s'entendent pas sur dire comment est-ce qu'on va appeler ça, mais il y a le paradis végétarien. C'est super intéressant, les produits qu'ils font.
Mm-hmm.
Mais il y a aussi, par exemple, des kiosques qui vont présenter des vêtements éthiques.
Ah,
c'est
ouais.
super intéressant. Okay. Comme je vous dis, c'est pas
ouais,
que
ouais,
l'alimentation
ouais, ouais.
Des vêtements. Mon prochain manteau, c'est sûr que mon prochain manteau d'hiver, c'est une compagnie que j'ai vue l'année passée au Festival Vegan, des souliers. Il y a aussi une invitée cette année qui est Marie-Noëlle Gingras. Je vous invite à aller voir son site web. Elle a écrit un livre aussi qui est « Beauté sans cruauté ». C'est toutes les compagnies et les produits qui ne sont pas testés sur les animaux, qui sont quand même très faciles à intégrer. Il faut juste savoir c'est lesquels et faire les choix quand on arrive en magasin. C'est pas nécessairement plus cher, là. C'est vraiment juste de faire la différence.
Mm-hmm.
C'est une fille qui est très, très impliquée dans le mouvement aussi. Elle a travaillé à la SPCA. Elle a participé aussi le défi vegan 21 jours. C'est elle plusieurs des recettes dans le livre, c'est elle qui en est l'autrice. Donc, je vous invite, comme je vous dis, à aller voir son site Internet. Il y a des OSBL aussi qui sont là, qui présentent leur mission, leurs besoins. On constate à quel point il y a des gens dévoués qui consacrent le temps à la défense des animaux, de l'environnement. Il y a la librairie Zone Libre qui était là dans les dernières années, on peut acheter des livres. C'est une librairie que je vous invite aussi à découvrir. Petite librairie qu'on essaie d'encourager, évidemment. Qui ont une grosse, grosse section sur le véganisme, sur le féminisme, sur l'environnement. Quand on va là, les gens sont incroyablement accueillants. C'est vraiment, j'adore la librairie Zone Libre. Et aussi, il y a des ateliers. Il va y avoir des ateliers de cuisine qui démontrent comment faire certaines recettes. Il va y avoir des conférences. Et je pense que cette année aussi, c'est nouveau, il va y avoir des ateliers payants entre 5 et 20 $ par personne pour couvrir les frais des produits et des matériaux qui vont être utilisés. Alors, les gens vont pouvoir mettre la main à la pâte puis apprendre à confectionner plusieurs produits vegan. Donc, ça s'inscrit un peu aussi dans cette approche-là de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos achats, les faire nous-mêmes, si ça nous intéresse. C'est vraiment comme de voir tout ce que ça implique, dans le fond, d'être vegan, ou tout ce que ça peut impliquer. Ouais. Il y a certaines choses qui conviennent à certaines personnes, d'autres non, mais c'est d'avoir comme l'éventail là, devant nous puis de participer à ça.
Puis c'est souvent de commencer qui est rebutant, parce que c'est vrai, puis on en a déjà parlé, c'est difficile quand on ne sait pas par où commencer. Donc, d'avoir l'opportunité de se faire tenir la main ou du moins de se faire pointer un petit peu une direction... Absolument. On va le prendre. Absolument. Et j'imagine que là-bas, justement, il y a ces premiers pas-là à faire qui sont des inéluctables du monde vegan qui doivent être présentés. Là. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre garde-manger pour commencer qui ferait une grosse, grosse différence?
C'est très intéressant comme question. Au début, moi, j'ai trouvé ça quand, comme je vous dis, il y a 9 ans, l'offre n'était pas pareille.
Pas super.
Les premiers mois, je dirais, c'était comme de faire la transition. Mais maintenant, chez moi, comme tout est vegan, tout mon garde-manger, mon frigo, mon congélateur, j'ai même plus à réfléchir par quoi je vais remplacer les trucs. Mais il faut partir.
Exactement.
Par exemple, la mayonnaise. Voilà, moi, je suis une fan inconditionnelle de la mayonnaise. J'en mets un peu trop partout. Grosse marque, Hellmann's maintenant. Hellmann's fait une mayo vegan qui est très respectable.
Je ne l'ai pas goûté.
Vraiment, c'est pareil, comme la mayonnaise qui est faite avec des œufs. Mais j'aime bien encourager l'entreprise qui s'appelle Earth Island.
C'est ma préférée, c'est celle que je prends et j'ai 2 pots dans le frigidaire. Je ne peux pas en manquer.
Oui.
Je la boirais.
Ah, c'est incroyable. Pour vrai, je pense qu'elle est même meilleure que la mayo. Et leurs installations sont, je pense, c'est de l'énergie solaire qui
c'est une compagnie qui œuvre vraiment pour un changement réel et durable pour la planète.
Oui, les pots en verre. Earth Island. Ouais, les pots sont en verre. Moi, je les réutilise, je garde les couvercles. C'est vraiment le fun.
Ouais.
saucisses, barbecue, les saucisses Gusta, faites à Montréal. On peut aller. Maintenant, il y en a beaucoup dans beaucoup d'épiceries métro IGA, mais au marché Jean Talon, sur place, ils ont des saveurs qu'on ne trouve pas en épicerie. Ils font aussi 3 sortes de fromages maintenant. Il faut apprendre à cuisiner, savoir comment les utiliser. C'est vraiment des super bons produits, l'initiative montréalaise, on aime ça. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est crème à cuisson. Il y a des crèmes à cuisson super intéressantes, là, 2$, le petit truc.
Moi, j'utilise du Belsoy.
Exactement. C'est...
Qui vraiment, pour mes patates pilées, pour
des sauces crèmes, rosées.
N'importe quoi.
Oui, absolument.
Ouais.
C'est très, très facile. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est... Quand on intègre ces ingrédients-là dans la cuisine et qu'on ne goûte pas la différence, ça rend ça c'est plus accessible parce qu'on se dit, dans le fond, c'est pas un gros effort, j'ai juste à choisir ce produit-là au lieu de celui-là.
Il n'y a pas l'habituation gustative.
Oui, on peut commencer. Vraiment... C'est comme les laits végétaux pour la cuisson. Il n'y a pas de différence quand on fait... Moi, je fais mes sauces béchamel avec du lait de soya, les crêpes, le lait d'amande, le lait de cachou, c'est infini.
Et maintenant, je bois mon café noir, ce qui a enlevé tout sucre et tout produit laitier de mon café, ce qui fait que maintenant, j'aime pour vrai le café, ce que je ne faisais pas avant. Sophie Lecomte.
Oui.
J'espère vraiment que tu viendras nous en apprendre encore davantage.
Je le souhaite aussi. J'espère vous croiser au Festival Vegan à travers les milliers de visiteurs.
20-21 octobre.
Oui, exactement. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Vous écoutez Aime l'été.
13h en ce 22 août 2018, 22 août pluvieux, mais du soleil dans notre cœur. Emmanuel Robitaille avec vous, toujours en compagnie de Luc Fortin.
Je souris.
Pour la prochaine demi-heure. Ça veut dire que ma mission est quand même réussie. Hein? J'éclaire sur toi tout ce sourire et cette joie de vivre. Je suis très heureuse. Et pour la prochaine demi-heure, on parle des journées mondiales et internationales.
Parce que ça s'en vient sirop collant.
Journée mondiale et internationale de la semaine avec quelques petites anecdotes comme d'habitude. Et on finit en beauté comme tous les mercredis avec la chronique musicale de Daniel Lachance.
Les les filles, c'est beau comme un jeu, c'est beau comme un feu, c'est beaucoup trop peu. Les filles, c'est beau comme un fruit, c'est beau comme la nuit, c'est beaucoup d'ennui. Les filles, c'est beau comme un renard, c'est beau comme un retard, c'est beaucoup trop tard. Les filles, c'est beau tant que ça peut, c'est beau comme l'adieu, c'est beaucoup mieux. Mais les chiens, c'est beau comme des chiens, et ça reste là à nous voir pleurer. Les chiens, ça ne nous dit rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça vous pend au nez, ça vous prend au thé, ça vous prend les dés. Les filles, ça vous pend au cou, ça vous pend au clou, ça dépend de vous. Les filles, ça vous pend au cœur, ça se pend aux fleurs, ça dépend des heures. Les filles, ça dépend de tout, ça dépend surtout, ça dépend des sous. Mais les chiens, ça ne dépend de rien, et ça reste là à nous voir pleurer. Les chiens, ça ne nous dit rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça joue au cerceau, ça joue du cerveau, ça se joue tango. Les filles, ça joue l'amadou, ça joue contre-joue, ça se joue de vous. Les filles, ça joue à jouer, ça joue à aimer, ça joue pour gagner. Les filles, qu'elles jouent les petites femmes, qu'elles jouent les grandes dames, ça se joue en drame. Mais les chiens, ça ne joue à rien, parce que ça ne sait pas comment faut tricher. Les chiens, ça ne joue à rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça donne à rêver, ça donne à penser, ça vous donne congé. Les filles, ça se donne pourtant, ça se donne un temps, ça donne en donnant. Les filles, ça donne de l'amour, à chacun son tour, ça donne sur la cour. Les filles, ça vous donne son corps, ça se donne si fort, que ça donne des remords. Mais les chiens, ça ne vous donne rien, parce que ça ne sait pas faire semblant de donner. Les chiens, ça ne vous donne rien, c'est peut-être pour ça qu'on doit les aimer. Et c'est pourtant pour les filles qu'au moindre matin, qu'au moindre chagrin, on renie ses chiens.
Jacques Brel, les filles et les chiens.
Parlant de filles, il se dit que ça parle de magasinage puis de cuisine. Sophie sort à peine du studio. C'est non, vrai, non, c'est sympathique.
Oui, mais moi aussi, c'est que j'ai besoin d'un manteau d'hiver. Donc, ouais. Nécessairement, j'ai apostrophé. Je disais, Sophie, by the way, tu peux me dire ce que tu voulais parce que moi aussi, je suis en recherche.
Ouais. Non, t'as, si ce n'est que pour ça, il faudrait que je me mette une petite note et que j'aille faire un tour du côté du Palais des Congrès les 20 et 21 octobre.
Moi, j'y serai absolument. Ouais. Et c'est ça, c'est à ne pas manquer, au moins. Si on est curieux.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe cette semaine?
Il se passe tellement d'affaires, comme à chaque semaine.
En passant, là, c'est très pratique ton titre d'émission avec un M et deux L, parce que je devais t'envoyer un courriel hier et j'ai quelques Emmanuel dans, tu sais, quand tu commences à écrire.
Il t'offre,
alors là, je me suis dit, oh, je vais reculer, je vais juste mettre un M, puis pouf.
J'étais la seule, hein?
Vive le titre de l'émission.
C'est merveilleux. Ouais. Et maintenant, il y a beaucoup, quasiment tous les gens l'écrivent correctement. Mmh. Alors, j'ai trouvé ça brillant. Félicitations à tous ceux qui ont eu l'idée. Donc, cette semaine pour les Journées mondiales et internationales, c'est la semaine du 22 au 28 août 2018, bien sûr. La première journée internationale que l'on souligne, c'est la journée du 23 août, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Parce que c'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et République dominicaine, qu'a commencé la révolte qui allait jouer un rôle majeur dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. L'UNESCO, qui chapeaute cette journée internationale, vise donc, lors de celle-ci, à inscrire la tragédie de la traite dans les mémoires de tous les peuples. Et en regard aux objectifs du projet interculturel « La route de l'esclave », la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition doit être une occasion de réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences
de cette tragédie-là, en plus d'évoquer une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Clairement, c'est en prenant un temps d'arrêt pour se rappeler de ces événements sociaux et mondiaux-là, qu'on prend une entente non écrite, mais tout aussi officielle en tant que peuple de la Terre, pour éviter à tout prix et prévenir de manière responsable et engagée que de tels événements se reproduisent. D'ailleurs, la directrice de l'UNESCO invite les ministres de la Culture de tous les États membres à organiser des actions et en mettant à profit la participation des différents acteurs de nos sociétés, bien sûr, soit les jeunes, les éducateurs, les artistes même, en passant par les intellectuels, les sportifs, bref, tout ce qui fait de nous une société civile et, s'il vous plaît, civilisée, hein? Parce que l'abolition, moi, je trouve qu'elle est arrivée tard. On parle environ il y a 200 ans.
Oui, puis en plus, bon, ça, c'est un choix international. On le sait, aux États-Unis, c'est suite à la guerre de sécession qui s'est terminée en 1866. Il y a encore la traite des esclaves, si on pense aux esclaves sexuels. En ce sens...
Oh, ça existe encore, Seigneur.
Le problème dans ce genre de truc-là, Emmanuel, c'est que, disons, les principaux intéressés, eux, ils se sentent pas concernés.
Oui.
Je veux dire, si ça profite à quelqu'un, bien que l'UNESCO dise « tu devrais peut-être y repenser », lui, il regarde ailleurs, là.
Mm.
C'est ça, la difficulté. Puis, je pense encore à, mon Dieu, c'était quoi cette série-là qui a passé tant à Mi-Télé qu'à TVA, où la jeune tombe dans un réseau de prostitution et tout et tout.
Puis, fugueuse.
Voilà, tu sais, puis c'est jamais voulu, c'est jamais... Puis à un moment donné, t'es pris dans le filet, t'es pris dans les maillons, puis c'est une autre véritable forme d'esclavage.
Mais c'est pour ça que je dis que ça existe encore et que c'est pas la même chose.
Ouais.
Par contre, moi, je dis que c'est comme Noël. Je sais que c'est pas en une journée qu'on peut changer quelque chose, mais je me dis, des fois, si c'est seulement pour rappeler que ça existait, si c'est seulement pour rappeler que ça fait pas très longtemps
que c'est plus là,
ça peut nous remettre un petit peu en ligne vers une réalité réel, ça sera ça. Il y en a qui disent « Ah, mais Noël, là, pourquoi? Là, c'est tous les jours, l'amour. » Puis c'est « Oui, mais on est trop occupé. » La vérité, c'est qu'on le fait pas tous les jours. Mm-hmm. Fait que si on peut se donner un temps d'arrêt dans l'année pour en profiter, faisons-le.
Non, puis regardez juste les origines de la Sierra Leone. C'est intéressant où, justement, on a donné une terre à ces Africains nord-américains qui voulaient retourner dans une terre qui était la leur. Et depuis le temps, c'est sûr que des fois, il y a des petites chicanes, des guerres, décider ça. Mais je veux dire, il y a des choses intéressantes qui ont découlé de cette journée qu'on commémore demain.
Absolument. 25 août, journée mondiale pour la fin du spécisme.
À 4 mois de Noël.
Et c'est vrai. Et effectivement, on peut se demander, bon, ce que c'est précisément, parce que le mot spécisme sous-tend le mot espèce, mais encore, ben, il semble que les écrits ramènent la première édition de cette journée-là en 2016, mais c'est pour la 4e année consécutive que la Journée mondiale pour la fin du spécisme existe et organise des marches et des événements pour soutenir leur point et faire changer les choses. En fait, c'est l'initiative de quelques groupes très militants en faveur de la cause animale et qui soulignent la considération morale supérieure que les hommes accordent à leur propre espèce, malheureusement, au détriment des autres espèces, voire les espèces animales. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, les conséquences sont grandes, en commençant par un traitement discriminatoire en fonction des droits octroyés à chacun, l'absence de remords et de la reconnaissance de plusieurs formes de maltraitance également. Et c'est juste un chien, c'est juste une poule. Bref, cette journée-là a pour fonction la suppression du spécisme et la reconnaissance de l'égalité homme-animal. Et l'humoriste franco-belge Raymond Devaux a d'ailleurs illustré sa vision des choses concernant le spécisme avec son numéro qui s'intitule « Mon chien, c'est quelqu'un ». On en écoute un extrait.
Là, s'il y a des gens qui se prennent pour des valises, moi, j'ai mon chien qui se prend pour quelqu'un, dites-nous. Ah, depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à m'en dissuader. Oh, c'est pas que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, hein? Mais que lui se prenne pour quelqu'un, hein? C'est un peu abusif. Enfin, quoi, est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique! Dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille.
C'est Raymond DeVos sur YouTube. Vous pouvez écouter l'intégrale de ce numéro-là, qui est cocasse quand même. Le titre complet, je vous le rappelle, est le « Mon chien ». C'est quelqu'un qui nous ramène à tout ce spécisme et à toute cette idée où on partage tous des caractéristiques un peu animales et un peu humaines parfois.
Et un pas à la fois. Hier, il y a la Ville de Montréal qui décidait de mettre fin à l'usage et l'utilisation des chevaux et des calèches.
Oh! Alléluia!
J'ai appris ça dans les journaux.
Je suis très contente.
Donc, à partir du 1er janvier 2020...
Ça paraît pas, mais il m'écoeure. Présentement, je vais juste le dire haut et fort quand t'es en train de rire de moi.
Le 1er janvier 2020, donc, plus de calèches à Montréal.
Magnifique. Ouais, très bonne nouvelle. Je continue et on va se souhaiter qu'il fasse très chaud le 26 août prochain. Il y a eu une grande canicule à Montréal le 26 août prochain parce que il y en a certains qui sont tannés de la chaleur, mais on va bien pouvoir l'utiliser en cette journée mondiale topless.
Ah, OK.
La vérité, c'est que cette journée-là, elle est presque exclusivement célébrée dans le milieu anglo-saxon, là, ce qui fait qu'on lui réserve son nom américanisé, mais on comprend assez rapidement que c'est la journée qu'on ne porte pas de haut, qu'on ne porte pas de top. Et à l'origine de cette journée-là...
Très frustrant pour un gars avec une journée comme celle-là.
Je l'ai trouvée donc bien bonne. À l'origine de cette journée-là, se trouve une association de militantes pour les droits des femmes, on s'en doute. Et elle est toujours fêtée le dimanche le plus proche du 26 août, qui se trouve à être aux États-Unis.
Oui, c'était magnifique.
Lapsus! Ouais. As-tu entendu ça? Alors, aux États-Unis, oui, le jour de l'égalité des femmes, miracle, coïncidence ou parcelle de chance, cette année, le 26 août, c'est un dimanche et c'est l'élu pour que les femmes puissent se promener sans avoir à se cacher la poitrine ni non plus à justifier leurs atouts, sans pour autant qu'on ait le droit de les sexualiser, de les utiliser en objet sexuel. Parce qu'on va se le dire, la pudeur des parties intimes et sexualisées est largement relative et elle se pratique pas partout dans le monde, mais alors pas du tout, plusieurs peuple se promène seins nus à longueur de journée. Il n'y a absolument rien de spécial là-dedans. Et je veux absolument terminer, je ne te laisse pas intervenir.
Non, c'est beau.
Sur cette journée mondiale qui aura lieu également le 26 août, qui est la journée mondiale du chien.
Ah.
Et c'est pour ça qu'on a entendu Jacques Brel tout à l'heure nous parler de cette race canine. Et telle que soulignée par les fonds internationaux pour la protection des animaux dont elle détient son origine, cette journée-là veut célébrer le lien impérissable qui relie les chiens et les humains depuis des millénaires, ces deux meilleurs amis inséparables, et ce, partout dans le monde. Il faut dire que les chiens se sont énormément adaptés au mode de vie des humains et en sont maintenant partie intégrante. Par contre, cette capacité... pour que ces deux espèces-là vivent côte à côte de manière saine, c'est largement tributaire à nous, les hommes, leurs maîtres, ceux qui ont la responsabilité de leur bien-être et de leur santé. C'est ce que nous rappelle l'IFAO, qui travaille fort pour s'en assurer. C'est donc le temps de se rappeler que les chiens ont besoin d'une nourriture adaptée et saine, d'exercice physique, s'il vous plaît. Les chiens ont besoin d'aller dehors, de vaccination contre les infections et de rapports sociaux sur une base régulière. Sinon, on parle de négligence, de maltraitance et malheureusement la mauvaise prise en charge d'un chien par un humain. Finit souvent par le fait que l'humain lui-même veut s'en débarrasser vu des problèmes d'hygiène, de santé ou de comportement qui surgissent parce que le chien n'a pas été assez en contact socialement, il s'ennuie, etc., etc. Donc, c'est un appel à la responsabilisation, mais également à la joie de pouvoir partager nos vies avec des compagnons fidèles et loyaux, comme le sont pour nous nos amis canins. C'était les Journées mondiales et internationales de cette semaine.
Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
aching all I have, and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory.
Vous entendiez Lorraine Daigle, You Say.
Très honnêtement, Emmanuel, mm-hmm. si on ne le sait pas et que quelqu'un dit c'est Adèle, on se dit ça se peut très bien.
Le piano du départ est un piano quasiment copié-collé de Someone Like You de Adèle.
Et la façon qu'elle prononce, un petit peu les lèvres un petit peu relâchées. Moi, j'ai l'impression qu'elle se donne un accent brit, un peu. On ne sait pas d'où elle vient, mais avec un nom comme Lorraine Daigle...
Ça semble canadien.
On pourrait le penser.
Mais c'est une chanteuse que j'ai découverte pas plus tard qu'hier. Et j'ai adoré ce qu'elle fait. Et donc, j'ai décidé de l'amener en onde ici. Merci. Mais le piano, c'est vrai, tu l'écoutes et tu fais « Mon Dieu, j'ai pas mis d'Adèle aujourd'hui. » C'est ce que...
mais d'ailleurs, Adèle, même pour une British, sa prononciation est différente.
Ouais.
Les autres, on la reconnaît facilement, pas seulement à cause de sa voix. C'est ça, elle a une signature dans sa diction.
Daniel Lachance, salut!
Oui, bonjour, bonjour. Excusez, je commence à
parler. Très correct.
Avant même de présenter, je me sens comme chez nous.
On n'est pas tout le temps obligé de déployer la grande entrée. Là. Prends ta place, assis-toi, t'es comme chez nous.
Oui.
Parce qu'on parle musique quand même.
Enfin,
oui, tu nous parles de guimauve, de musique et de guimauve.
Oui, parce que cet été, j'avais décidé pour l'émission de parler de chansons d'été.
Mais là, on est à M l'été et on décortique, on analyse, on défriche les terrains.
Puis on essaie de comprendre c'est quoi la différence, c'est quoi qui fait qu'une chanson sonne comme une chanson d'été. Puis on a fait tout un développement à date.
Oui, à date, on sait que les paroles ne sont pas suffisantes.
Souvent, c'est pas ça qui compte.
Le ukulélé assure la présence estivale.
Ça aide beaucoup. Mais là, je sais pas si tu te souviens, la dernière fois, je sais pas là la semaine dernière, mais la dernière fois que je suis venu. J'ai parlé aussi d'une nuance que moi, je trouvais importante puis qui échappe à certaines personnes. Mais moi, je vois une grosse différence entre ce qu'on appelle des vraies chansons d'été qui évoquent la plage, le soleil, tout ça, et des chansons de feu de camp. C'est la même affaire.
Mais... J'aurais tendance à penser que oui.
J'aurais juste pas eu cette réflexion-là.
OK.
Naturellement, je me suis jamais posé la question.
Essayez d'y penser un peu. Là, qu'est-ce qui fait la différence, mettons? Ma perception, quand j'entends une chanson d'été, on en avait déjà discuté, on me semble qu'on voit la plage, on voit les vacances, on voit le soleil.
Tu parlais d'espace.
On voit de grands espaces. Liberté, road trip, toutes sortes de choses comme ça. Et souvent... Dans la musique, on l'entend ça, soit par l'instrumentation, le rythme ou le choix musical aussi, le choix des accords, souvent plus des accords majeurs que mineurs dans les chansons
d'été.
Mais
mon Dieu, oui, il faut que ça se passe. Parce que mineur, c'est triste.
Beaucoup.
C'est très rare
qu'on
dans des chansons de Lana Del Rey où là, on s'en va dans Summertime Sadness, on est comme.
C'est
un
autre
affaire.
Mais d'ailleurs, quand on les écoute, ça nous évoque pas autant les vacances et l'été. Puis dans les chansons de ce que j'appelle des chansons de feu de camp, je vais vous donner des exemples. C'est quoi une chanson de feu de camp? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est avillé à l'esprit?
Ben moi, j'ai une réflexion actuellement.
Ouais.
Là. Je me dis, crime, quand on est feu de camp, on sort la guitare, j'ai l'impression qu'on a un aspect plus traditionnel,
simpliste,
folklorique. Ouais, dans nos racines, on va aller chercher des chansons à répondre. On va aller chercher l'acoustique. On va aller vraiment chercher quelque chose du terroir qui ressemble à d'où on vient.
Moi, je pense à Stéphanie Trudeau, matricule 728, avec ses maudits gratteux de guitare.
Ouais.
Moi, j'en ai une. Oui, Annie Cooney.
Annie Cooney.
Ouais, voilà. Chanson de feu de camp, non?
Chanson de scout, ça.
En tout cas, c'est un camping sauvage.
Ouais. Ouais, mais on pourrait subdiviser même les chansons de feu de camp en chansons.
Un vieux dans le bas du fleuve.
Ces chansons-là, ouais, voilà. Des chansons guitare acoustique, mm-hmm. harmonica. Des chansons assez simples.
Paul Piché, on chante.
Paul Piché. Ça, c'est d'un numéro Caïn. Un des bon, top 10 des chansons.
Parce que là, on remonte loin, mais même plus près de nous, tu sais, Caïn.
Ouais. Oui, oui, des chansons comme ça.
Ouais.
Mais on dira ce qu'on voudra. Des chansons de feu de camp, ça peut être une chanson d'hiver, de n'importe quoi, mm-hmm. mais on joue ça autour d'un feu de camp. Mm. Et quand on les entend,
hey, ça, c'est bon,
ça nous évoque pas la plage, ça nous évoque pas la chaleur, la mer, tout ça. Il y a une grosse différence. Voyez-vous? Et la chanson que j'ai choisi de vous faire écouter aujourd'hui,
tu peux bien rire.
Qui était sortie à l'été, je pense, 2007, qui a été un gros, gros succès.
Ouais, ouais.
Puis même si c'est le succès de l'été, pour moi, c'était pas une chanson d'été, c'était une chanson de feu de camp. Je vous la laisse écouter, puis on en reparle après.
Je veux bien, mais les amis, ça va, ça vient. Alors partons vite, brûler le jour et la nuit. Évidemment, tu l'aimes encore. Je le vois bien, tu sais. Et puis alors, mais pour l'instant, ferme tes yeux, passe ta main dans mes cheveux. Chante pour moi, mais en douceur, comme ça tout bas, comme un sourd. Mon cœur, lui, s'emballe, il vole haut. Peut-être un peu trop haut pour moi, mais je m'en fous, je suis vivant pour de bon. Allez, danse, danse, regarde.
Voilà, c'est un extrait de la formation Kaolin. Partons vite.
Quand je travaillais au FM 103.3, là, ça a tourné, oui, ça a tourné. A et ça faisait énorme. Du bien parce que c'est beaucoup plus léger que bien d'autres. Pièce, là, tu sais, un peu criarde.
Et vous trouvez pas que ça ressemble plus à une chanson de feu de camp qu'à une chanson de plage, de mer, de soleil?
Tout à fait.
Et je voulais juste attirer votre attention sur une chose, parce que quand ça a joué tellement cette chanson-là, justement, moi, quand je l'entendais, je pouvais pas faire autrement qu'entendre une chanson de Bob Dylan qui s'appelle I Want You. Je vais vous en faire écouter un extrait. Je pense pas juste moi qui pense ça. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. Voilà, quand même une petite ressemblance.
C'est pas les mêmes arrangements, mais c'est exactement les mêmes notes.
Plus qu'une petite ressemblance. Là, si j'étais Bob,
ben, il semble que ça se soit rendu à ses oreilles.
Oui, oui,
hein?
Apparemment, Bob Dylan l'a entendu. Il ne l'a pas poursuivi, mais il a dit, écoutez les gars, c'est comme pas mal.
C'est plus qu'une inspiration.
C'est plus qu'une inspiration.
Et c'est drôle parce qu'on a eu quand même une chronique complète sur bon, on appelle pas ça, on dit pas que les gens ont plagié, mais de cette idée-là où... Où les musiques d'été sont tellement populaires, tellement des recettes que probablement qu'il y a plus de grandes influences, on va le nommer comme ça, là, qui peuvent arriver dans des hits.
Oui, oui, c'est comme si on prenait un modèle en partant, puis on change un peu, on change les paroles, on change les arrangements.
Ouais. Ça sent le café dans le studio.
On va remercier Caroline qui m'a permis de ramasser le café que j'ai renversé partout dans le milieu de la chanson. mais c'est à noter finalement qu'une chanson de feu de camp, finalement, ça se ramène plus au terroir, c'est plus folklorique, ça nous ramène à nos racines.
Ouais. Puis moi, ce que je te dirais, c'est que ce que ça m'évoque, quand j'entends une chanson d'été, je vois le soleil, je vois la plage, tout ça. Quand j'entends une chanson de feu de camp, c'est plus la noirceur autour d'un feu. On chante pas ça en plein jour autour d'un feu de camp.
Il y a l'odeur, il y a la fumée.
C'est ça, c'est toutes ces petites choses-là qui sont différentes. Chanson d'été, de plage, on sent du suntan, mais chanson de feu de camp, on sent le bois brûlé.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour ta dernière chronique de musique d'été. Luc Fortin, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Ben oui, je serai avec Kevin demain.
Demain, tu es là à compter de midi. Merci Maurice Bolduc, Clotilde Seille à la réalisation. À demain midi.
Salut Emmanuel.